Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, à vous qui nous écoutez tôt à la radio ou vous abonnez au podcast du Réveil Culturel, émission réalisée par Vincent Abouchard avec aujourd'hui à la technique Manuel Couturier, émission préparée avec Corinne Amar et tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un premier film, Les Particules, un film à la frontière du réalisme et du fantastique. Ça commence comme dans un teenage movie, on suit des jeunes adolescents entre le lycée, les fêtes qu'ils organisent, les campings, les sorties scientifiques, et puis le film bascule dans d'autres genres. Le suspense d'abord, avec la disparition d'un lycéen, puis le fantastique, avec de drôles de phénomènes observés. Et si la centrale d'accélérateur de particules qui fait la fierté de ce patelin perdu dans les montagnes était à l'origine des dysfonctionnements et disparitions dans le lycée? L'accélérateur de particules le plus puissant du monde provoque des collisions de protons pour recréer les conditions d'énergie du Big Bang, et c'est bien de voir ça au cinéma. Donc d'où le titre Les Particules. Ce premier film, on peut le dire, n'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais son audace et surtout son casting en fait qu'il fut très bien accueilli au dernier festival de Cannes, où il a été présenté en avant-première dans la sélection La Quinzaine des réalisateurs. Blaise Harrison, le réalisateur des Particules, est mon invité ce matin. Et puis en deuxième partie, on retrouvera Michel Simon pour ses coups de cœur et ses coups de griffe.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Michel Simon, j'ai dit Simon. Bonjour Blaise Harrison, vous êtes le réalisateur donc des Particules, c'est votre premier film de fiction, mais vous avez réalisé des documentaires. S'il fallait d'abord localiser l'histoire du film.
Bah effectivement, c'est un film dans lequel j'ai eu envie de parler de l'adolescence en s'inspirant des souvenirs et des sensations que moi je garde de cet âge-là, dans cette région en particulier, qui est la région où j'ai grandi, où j'ai vécu mon enfance puis mon adolescence, et qui est une région qui est effectivement à la fois très banale et ordinaire, et en même temps je trouve pleine d'étrangeté et de mystère. Banale parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres régions de France qui sont situées entre la ville et la campagne, avec des fermes, des lotissements, un peu à l'américaine comme ça, et en même temps particulière parce qu'elle est... Voilà, situé entre cette grande métropole genevoise où vivent beaucoup d'internationaux qui habitent cette région, le pays de Gex où a été tourné le film, et la nature la plus sauvage du Haut-Jura. Et effectivement, en sous-sol, enfoui à 100 mètres sous terre, circulent des particules à la vitesse de la lumière pour reproduire et qui rentrent en collision, pardon, pour reproduire les conditions d'énergie du Big Bang. Là, juste sous les pieds des habitants, et ça en fait un lieu, je trouve, très particulier et empreint d'étrangeté et plein de mystères.
Quoi. Et c'est cela qui a inspiré votre première fiction, une fiction qui commence comme si c'était un documentaire. C'est assez documenté sur cette usine, c'est assez documenté sur le territoire de ce pays de Gex.
Oui, je suis parti d'un contexte existant, réel. Moi, j'ai réalisé des documentaires avant cette fiction et j'avais pas envie de rompre complètement avec cette façon de faire. Donc, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de réaliser une fiction dans laquelle j'ai envie de raconter une histoire et de m'inspirer, de faire en sorte que la réalité vienne nourrir cette fiction. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec des comédiens non professionnels qui vivent dans la région. De faire en sorte de pas transformer systématiquement voilà ce qui se propose à moi quand je prépare le film et qui s'avère parfois plus intéressant que ce que je peux imaginer à l'avance. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un équilibre entre cette approche documentaire que je connaissais et puis cette envie de fiction fantastique en plus et dans le film de à un moment donné de glisser d'un registre à l'autre, quoi, progressivement.
Et donc, c'est un film aussi avec des adolescents. Au centre de ces adolescents, il y a un personnage, Pierre-André, PA. C'est ainsi qu'il se fait appeler par ses amis. On dirait qu'il sort d'un épisode de Twin Peaks. Il est le mystère même du film. On a envie d'en savoir plus et sur cet adolescent qui a l'air très perturbé et en même temps tout à fait humain, c'est-à-dire qu'il peut être aussi très drôle comme on peut l'être à cet âge-là.
C'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé chez lui quand je l'ai croisé dans le lycée dans lequel on a fait le casting. Il s'est pas présenté au casting, mais c'est moi qui l'ai repéré dans la cour parce que effectivement, je l'ai trouvé assez fascinant. très beau, très étrange, avec une dégaine, une attitude, une façon de s'exprimer qui m'a tout de suite interpellé. Et en même temps, il a quelque chose de très ado, de très normal, de très drôle aussi. Et je crois que c'est ça qui m'a plu, c'est à la fois son côté ado basique et en même temps fascinant à regarder et à observer. J'ai eu envie de travailler avec lui spontanément pour ces raisons. En fait, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit qu'il devait absolument être dans le film. Et en même temps, il me semblait très différent du personnage que j'avais écrit dans le scénario. J'ai eu beaucoup de mal à l'imaginer dans le rôle de PA, du personnage principal au début, parce que il est beaucoup moins discret, réservé, observateur que PA. Il m'a fallu une année avant de me dire qu'effectivement c'était lui qui était parfait pour ce rôle-là.
Alors parlez-nous de ce personnage de PA.
C'est un ado qui est un peu qui a une bande de copains, qui est un peu à part, qui est un peu en marche, qui a un côté un peu étrange comme ça, qui est très observateur, qui est très amical, mais qui a une sensibilité particulière par rapport aux autres, ce qui le rend plus attentif aux phénomènes qui se met à observer progressivement dans le film et qui vont en s'accentuant jusqu'à se demander s'ils sont réels ou pas. C'est la question de qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que effectivement ce qu'il observe dans la nature, ses déformations, ses lumières, sont provoquées par l'accélérateur de particules, ou alors est-ce que c'est les drogues qu'il prend avec ses copains pour s'amuser, ou alors est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou. Et voilà, il a cette fragilité, moi, qui m'intéresse à l'adolescence, où on est particulièrement attentif à tout ce nouveau monde qu'on découvre parce qu'on change et on a l'impression que le monde change aussi, et ça peut être à la fois angoissant, vertigineux, fascinant, excitant et tout ça à la fois. Et c'est un peu ce trouble-là que j'ai eu envie de raconter à travers l'expérience qu'en fait ce personnage-là qui est quelque chose d'un petit peu hors norme aussi.
Les particules de Blaise Harrison, qui sort aujourd'hui au cinéma, extrait.
Ça va, mec ?
Ça va.
Est-ce que vous êtes prêts, la jeunesse ? Un beau sourire, voilà, naturel.
Grosse ambiance, hein. T'es tout mignon dans ton costume tout jaune, là. Petit jeune canari.
Il se passe quoi ?
Il se passe des trucs étranges dans mon cerveau. Je vois des trucs bizarres.
Parfois, moi aussi, je me réveille. Et c'est comme si le monde n'était plus pareil. Comme s'il changeait. Et que personne d'autre s'en rendait compte.
Et dans votre film, Blaise Harrison, les jeunes qui font la fête, qui sortent, qui dansent, ils ont tous quelque chose qui ne tourne pas rond. L'héroïne est malade d'une drôle de maladie, on ne saura jamais pourquoi elle est obligée d'avoir ses injections toutes les deux heures. Votre personnage principal, vous venez d'en parler, il est sûr d'à peu près rien de ce qui se passe autour de lui. Ils sont aussi dans la torpeur. Alors cette torpeur, bien sûr, on peut lui trouver des raisons, les drogues, les champignons hallucinogènes, mais on a l'impression que sont déconnectés de la réalité.
J'ai l'impression que c'est un âge où qu'on se trouve, où on est particulièrement sujet à ces questionnements un peu existentiels, métaphysiques, philosophiques presque parfois. Et ce qui se passe dans la région au sein du CERN, le CERN qui est le centre de recherche nucléaire qui abrite l'accélérateur de particules, toutes les théories sur lesquelles travaillent les physiciens au sein de cet accélérateur sont assez fascinantes et vertigineuses quand on y pense. Et pour moi, elles étaient le vecteur de cette inquiétude qui s'empare à un moment de mon personnage et qui je trouve, fait assez bien écho à tous ces questionnements qui peuvent nous habiter à cet âge-là.
Film à suspense, un des adolescents va disparaître. Film fantastique, mais avec très peu d'effets spéciaux en réalité. Comme si le côté étrange, surnaturel du film, vous vouliez l'obtenir, Blaise Harrison, sans vous défaire du socle très réaliste de votre film, Les Particules.
Bah effectivement, mon approche, elle est d'abord plutôt tournée vers le documentaire et j'ai essayé moi de raconter cette étrangeté, enfin ces sensations là à l'aide de plein de choses dans le film en fait, plein de moyens qu'offre le cinéma pour faire naître de l'inquiétude, de cette étrangeté quoi.
Sauf qu'on est très loin du déluge d'effets spéciaux.
Ouais, moi j'ai plutôt envie de travailler les durées, enfin voilà, des temps parfois qui sont un petit peu trop longs, voilà où tout d'un coup notre attention quitte celle de la narration et du récit pour aller chercher des choses un petit peu à côté quoi. Le son aussi, la musique et le son qui sont très importants dans mes films et effectivement le fantastique qui naît aussi du son. Et de la musique.
Et il y a quand même la clarté des images, la clarté de ces images sombres, puisque c'est tourné en hiver.
C'est vrai que moi, j'ai toujours imaginé un film très obscur, tourné la nuit, effectivement.
C'est très obscur. Mais en même temps, on voit tous les détails.
Oui, l'idée, c'est quand même de voir quelque chose. Et c'était le cas pour les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois qu'il soit discret et en même temps visible, qu'on ait la sensation d'avoir vu quelque chose sans toujours en être sûr, comme le personnage, en fait. Il se demande sur la nature de ces phénomènes. Il se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu cette lumière, ces particules-là dans l'air? Et ça m'intéressait que ces effets viennent du réel aussi et qu'ils se mélangent, voilà, avec cette image très brute, très plus naturaliste, on va dire, plus réaliste.
Blaise Harrison, les particules qui sortent aujourd'hui au cinéma est votre premier long métrage de fiction. Vous avez réalisé d'autres films, des documentaires. Comment êtes-vous arrivé au cinéma? C'est une vocation, c'est une envie de raconter des histoires, de rendre compte du réel.
Ben, j'ai l'impression que c'est une question difficile. Pourquoi est-ce que je fais des films en fait? Je crois que ce qui me motive avant tout, c'est mon désir et mon plaisir de rencontrer des gens et de découvrir des lieux que je rencontrerai pas sans ça. Donc je suis très attaché en fait au réel et c'est aussi pour ça que cette fiction je l'ai envisagée de cette manière. C'est-à-dire que j'étais plus intéressé par ce qui allait se produire dans la réalité, dans la préparation, le tournage du film, plutôt que par tout ce que j'avais imaginé en écrivant le scénario.
Et est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont compté pour vous, qui vous ont accompagné durant vos premières années de cinéaste, Blaise Harrison?
Je crois qu'un des premiers chocs que j'ai eu au cinéma, ou enfin quelque part qui m'a aidé à savoir ce que je voulais faire, c'est La Vie de Jésus de Bruno Dumont. Voilà, parce que c'est la première fois que je voyais la France filmée de cette manière, avec une ampleur, tournée en cinémascope, avec des comédiens non professionnels, et en même temps avec un scénario quoi, très précis, beaucoup de rigueur. Et le fait comme ça de réussir aussi bien à trouver l'équilibre entre une forme très rigoureuse de cinéma et en même temps la mêler au réel, quoi, ce travail aussi avec des comédiens non professionnels, filmer des décors réels, tout ça, ça a vraiment été un déclic en fait. Et je crois que j'ai trouvé grâce à ce film l'endroit où j'avais envie de travailler aussi.
Et les films d'adolescents, de teenagers, ces films de genre, est-ce qu'ils vous ont marqué aussi? Parce que on ne sait pas comment voir les particules. Est-ce que c'est un hommage à ces films de campus?
Ah non, mais moi j'adore ces films. C'est-à-dire que j'ai été nourri par les teen movies, les films fantastiques, le cinéma d'horreur. Enfin voilà, comme j'ai l'impression beaucoup d'adolescents quoi. Et c'est vrai que j'adore jouer avec les codes très identifiés de ce cinéma-là. Et en même temps de me les réapproprier pour essayer d'en faire autre chose quoi. Et de pas être dans le genre pur. C'est pas pour moi, Les Particules, c'est pas un pur film de genre. C'est plutôt un film qui lorgne parfois du côté de certaines références qui peuvent être assez identifiées. Et en même temps, voilà, j'essaye de jouer avec tout ça. Ouais, c'est un plaisir un peu voilà, de cinéma aussi.
Et ce film qui sort aujourd'hui, Les Particules, a été dévoilé à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Donc vous étiez avec vos comédiens à Cannes cette année, Blaise Harrison. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir que votre film était en dialogue avec plein d'autres films qu'on a vus à Cannes, c'est-à-dire des films qui mélangent le fantastique avec le réel, le genre qui est repris pour mieux être détourné?
Ben, je pense que oui, c'est une façon un peu... Peut-être qu'il y a l'envie aujourd'hui de s'affranchir un peu d'une forme de naturalisme qui est aussi très présente dans le cinéma français, et d'essayer de raconter certaines angoisses de la société en jouant justement avec des références qui sont peut-être nouvelles.
Vous êtes suisse?
Je suis franco-suisse.
Oui. Franco-suisse, vous avez vécu en Belgique?
Oui.
Vous êtes installé à Paris depuis quelques années?
Oui. J'ai fait mes études en France, à la frontière, dans une région un peu particulière, très internationale, mais en France quand même. Et le fait d'aller étudier à Lausanne, puis de vivre à Bruxelles et de revenir à Paris, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a permis de prendre du recul sur la culture française, en fait. Et d'être nourri aussi par d'autres choses. Et j'ai l'impression qu'effectivement... En Suisse et en Belgique, et voilà, on va voir ailleurs aussi. Enfin, voilà, moi, ça m'a nourri, en tout cas. Ça me permet d'avoir un peu de recul sur le milieu franco-français.
Vous allez encore voyager, Blaise Harrison? Vous allez encore voyager, vous sentez bien?
Je suis bien ici. Il y a plein de choses à filmer en France. J'adore filmer la France.
Votre prochain film est
déjà écrit. J'ai envie de découvrir un nouveau territoire cette fois, je crois que j'ai envie, mais bon, qui est relativement proche de celui que je connais. J'ai beaucoup envie d'explorer les Vosges, donc la montagne, les sapins, la forêt encore, et de continuer à faire des films sur l'adolescence. Ouais, ça me plaît beaucoup.
Merci d'être passé ce matin. Les Particules, votre premier long métrage de fiction, sort au cinéma. Et dans un instant, on va retrouver Michel Simon. Merci beaucoup, Blaise Harrison.
Merci à vous.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour Michel Simon.
Bonjour Toufik Hakem.
Et bon anniversaire, le numéro 700 du magazine que vous dirigez, Positif, vient de sortir. 700e numéro et 68 ans d'existence.
Absolument.
Et vous mettez en couverture un film France Culture que vous allez défendre, qui va sortir bientôt.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi pour la couverture une photo de tournage, ce qui est inhabituel. D'habitude, c'est des photos du film. On voit effectivement une jeune femme, il y a un hélicoptère, il y a des chevaux sauvages qui galopent dans le Nevada. C'est un film étonnant, un premier film de Laure de Clermont-Tonnerre.
Qui s'appelle Nevada.
Nevada, voilà. Ouais. Le titre anglais, c'est Mustang. Car il s'agit de Mustang sauvage, que l'on capture et que l'on va redresser, qu'on va faire redresser par des prisonniers de droit commun, des criminels, des gens qui ont commis des crimes terribles. Et pour les rééduquer, eh bien, ils doivent se charger d'un Mustang. C'est la thérapie par l'animal. Et c'est un film qui est entre le western et le film de prison, qui sont deux grands genres américains. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est fait par une Française, avec Mathias Schoenaerts, le grand acteur flamand, et puis Bruce Dern, qui est un mythe du cinéma américain.
Et qui est toujours vivant, apparemment.
Qui est toujours vivant, absolument. Mmh. Donc c'est un film, d'abord, remarquablement filmé. Il y a une maîtrise absolue, il y a une tension permanente. Il y a cet homme qui a tué sa femme, qui reçoit la visite de sa fille et qui va se retrouver avec ce Mustang qu'il va réussir à dompter pour d'une certaine façon se réhabiliter. C'est un film, encore une fois, que nous avons énormément aimé. Et c'est un premier film plein de talent, mais c'est pas la première fois que les premiers films sont pleins de talent.
Comme pour Les Particules. Alors, parlez-nous de cette réalisatrice.
Ben, Laure de Clermont-Tonnerre, c'est une jeune femme qui est d'une famille de producteurs, donc elle est baignée dans le cinéma. Du coup, elle a joué des petits rôles chez Raoul Ruiz, elle a joué des petits rôles chez d'autres cinéastes, elle a joué dans Scaphandre et le Papillon. et dans trois films de Raoul Ruiz, aux côtés d'Isabelle Huppert dans l'un d'entre eux, des petits rôles. Et ensuite, elle s'est rendue compte que c'était pas sa vocation, qu'elle devait finalement beaucoup plus vouloir avoir des initiatives plutôt que d'être une interprète. Et donc, elle est partie à New York, elle a étudié le cinéma à New York et elle a fait deux courts-métrages. Le premier qui s'appelait Rabbit, c'est-à-dire déjà américain, sur des lapins qui également sont associés avec des prisonniers pour pouvoir se réhabiliter. Alors c'était, elle a vu plus grand avec les Mustangs évidemment, mais c'est un sujet assez proche. Et elle a fréquenté les prisons américaines, elle a vu les psychologues, etc. Et elle a élaboré un scénario, car il s'agit évidemment d'une fiction. Il s'agit pas du tout d'un documentaire, mais une fiction qui a la puissance de faits vrais.
Quand vous parlez de Mustang, on pense peut-être à tort au film de John Huston, Les Désaxés de Misfits, oui, avec son côté allégorique.
C'est tourné dans la région où on a tourné les Misfits, et voilà. Et donc c'est pas un hommage à Huston, c'est un film complètement différent du film de Huston, mais qui est resté mémorable.
Nevada, donc en couverture du numéro 700 de Positif, Michel Simon, et vous avez profité de ce numéro spécial, ce numéro anniversaire, pour faire ce que les lecteurs adorent lire, c'est-à-dire des listes des meilleurs films de tous les temps.
Les films préférés. Meilleurs, par exemple, Citizen Kane n'est pas mentionné, c'est des films préférés. On peut préférer un film qui n'est pas automatiquement un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Par exemple, La Splendeur des Ambersons de Wells est beaucoup plus cité que Citizen Kane. Et puis il y a aussi 21 membres du comité de réaction qui ont écrit une page chacun sur un moment mémorable d'un film qu'ils ont passionnément aimé. Et le résultat par ailleurs du référendum, avec 60 votants, c'est-à-dire, il y a des rédacteurs comme Emmanuel Carrère, comme Frédéric Vitou, qui sont, l'un est à l'Académie française, l'autre un romancier très connu, qui ont écrit beaucoup dans Positif. Et le résultat est évidemment très classique, c'est-à-dire Vertigo est en tête, suivi de La prisonnière du désert de John Ford. En troisième, c'est Ex aequo, L'aurore de Murnau, Barry Lyndon de Kubrick, La nuit du chasseur de Charles Boughton et La règle du jeu de Jean Renoir.
Bon, c'est très cinémathèque tout ça. Il n'y a pas de nouveaux films, un peu?
Alors si, il y a tout de même, parmi les nouveaux metteurs en scène, il y a Terrence Malick, par exemple, qui est dans les 20 premiers, qui est un des cinéastes les plus cités. Et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est plutôt, et Woody Allen. Terrence Malick et Woody Allen sont dans les 20 cinéastes préférés, mais le préféré des préférés, c'est Hitchcock, d'une voix supérieure à Kubrick, et ensuite Fellini, John Ford, Jean Renoir.
Voilà. Vous, par exemple, votre film préféré, c'est lequel, Michel Simon?
J'en ai 10.
Ouais, mais le premier des 10.
Oh, écoutez, c'est impossible, déjà 10, c'est terrible.
Mais qu'est-ce que vous avez mis en tête de votre liste? Je peux le dire?
J'ai pas mis en tête, ils sont tous ex aequo, ils sont 10, tous au même niveau, mais j'ai choisi, Muriel de René, j'ai choisi un Buster Keaton, j'ai choisi un Lubitsch, Trouble in Paradise, un Walsh, L'Enfer est à lui, Madame 2 de Max Ophuls, L'Intendant sans le chaud de Mizoguchi, Persona de Bergman, La Cité des Douleurs de Wuxia Ossian et La Ligne Rouge de Terrence Malick.
Est-ce que vous continuez à voir des films en été, Michel Simon, ou vous faites une pause?
C'est plutôt en DVD en été.
Ah, vous continuez à voir des films?
Je suis à la campagne, oui, mais je lis beaucoup surtout en été, mais ça m'arrive bien sûr de voir beaucoup de films aussi.
Bon, on se retrouve à la rentrée?
J'espère bien, si vous m'y invitez, je serai là.
Mais c'est toujours avec plaisir. Michel Simon du magazine Positif. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel. On se retrouve demain, et demain, comme tous les jeudis, on parle de musique.